Une nouvelle édition de l'économie en question, un retour sur une actualité qui ne nous quitte guère, celle de la fiscalité. Sous ses diverses formes, les meilleures et les pires, si l'on ose dire. Il est question cette semaine, par exemple, des méthodes de la banque UBS, important gestionnaire de patrimoine, soupçonné d'avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale à l'attention de ses riches clients français. Cette semaine encore, un rapport des Verts au Parlement européen qui pointe un groupe suédois d'ameublement et de décoration, on l'aura reconnu, qui aurait économisé plus d'un milliard d'euros en 5 ans sur des sommes dues en Europe. Rien qu'en 2014, 24 millions d'euros perdus pour la France, 35 millions pour l'Allemagne, 7,5 millions pour la Belgique, en toute légalité cette fois, grâce à un montage complexe, expliqué d'ailleurs avec humour sur le modèle de l'assemblage des meubles. Cela s'appelle de l'optimisation fiscale. L'OCDE et la Commission européenne cherchent à combattre ces pratiques habiles. Ce ne sera pas facile. Et puis il y a bien sûr la politique fiscale elle-même, toujours en débat dans notre pays, en attente encore de la grande réforme annoncée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'était en 2013. Fiscalité des ménages et des entreprises, fiscalité du capital, accumulation aussi des niches fiscales pas toujours compréhensibles, alors qu'entre 2010 et 2013, les prélèvements obligatoires en France ont augmenté de 60 milliards d'euros, soit près de 3% du PIB. La France se place désormais au deuxième rang mondial après le Danemark. Mais un consensus semble tout de même exister, peut-être le seul: la fiscalité française est non seulement lourde, mais elle est aussi injuste, compliquée et opaque. L'équilibre recherché n'est pas encore trouvé. Cela pèse bien sûr sur notre économie. Nous tâchons ce matin de démêler quelques nœuds. C'est notre sujet, à la recherche d'une politique fiscale juste. Et nous sommes en compagnie de deux économistes. Michel Didier, titulaire honoraire de la chaire Économie et Statistiques Industrielles du CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers, et président de Corex Code, institut proche des entreprises, je peux le présenter ainsi, think tank. Auteur donc, Michel Didier, avec Jean-François Ouvrard, de l'impôt sur le capital au 21e siècle. Et puis Vincent Touzet, économiste senior au département des études de l'OFCE, qui a fait paraître, lui, c'était l'an dernier, avec Henri Sterdignac, fiscalité des ménages et des entreprises. C'était une note de l'OFCE. Enfin, Marie Bellan pour sa chronique sociale que nous entendrons tout à la fin de notre émission. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Alors j'ai dit dans l'ouverture, pêle-mêle, un peu tout ce qui pouvait concerner la fiscalité. C'est vrai qu'elle peut avoir diverses formes. L'objectif de la fiscalité, quand même, il faut le rappeler, contribuer bien sûr à l'efficacité économique d'un pays et aussi à des objectifs de redistribution. Est-ce qu'il y a là un conflit de valeurs? On est déjà presque dans notre sujet. Et si l'on suit l'ouvrage que fait paraître Michel Didier, le capital, symbole bien sûr de richesse et peut-être d'inégalité. Mais cependant, c'est à peu près la thèse que vous défendez, Michel Didier, refuser son accroissement, notamment par l'épargne, puis son investissement, puisque le capital, selon vous, permet quand même d'investir, c'est se condamner à la stagnation dont nous serions victimes aujourd'hui en France. C'est à peu près la thèse que vous défendez dans cet ouvrage.
Tout à fait. Ce qu'on a voulu faire, c'est travailler sur le sujet, sur la question, est-ce qu'on peut utiliser une réforme, une amélioration de notre fiscalité du capital pour soutenir, relancer la croissance? Dans la situation où nous sommes, aucun levier, je pense, ne doit être négligé. Avec le chômage que l'on a, la croissance doit être absolument soutenue. La fiscalité du capital est, à nos yeux, un des moyens de relance de la croissance, mais pas telle qu'elle est, justement. Si on la réforme, si on la modifie, d'ailleurs sans perdre nécessairement d'argent, mais ce sont ces modalités qui sont en cause. Et je le développerai si vous le souhaitez, mais ces modalités sont tout à fait atypiques dans le monde.
Vous donnez d'ailleurs en sous-titre, de manière un peu malicieuse, une coûteuse singularité française. C'est ainsi que vous qualifiez notre fiscalité du capital, qui a été, je le rappelle, très augmentée ces derniers temps. J'ai donné quelques chiffres en introduction. Vincent Touzet, sur cet ouvrage que vous avez déjà parcouru, mais qui est sur ce principe des défauts de la fiscalité du capital.
Parmi les éléments défendus dans l'ouvrage de Michel Didier et Jean-François Ouvrard, il y a la question aussi donc vers quel type de réforme. Et il y a une proposition
sur laquelle on va revenir assez longuement. Tout à fait.
Michel Didier la présentera. Avant donc de revenir sur la question de la réforme, je pense qu'il faut revenir aussi sur les objectifs de la fiscalité et en particulier les objectifs de la fiscalité sur le capital. Et également revenir un peu sur les caractéristiques françaises que fait le l'ouvrage de Didier et Ouvrard. Alors, sur les objectifs de la fiscalité, il faut voir qu'il y a une logique qui renvoie donc au côté fiscalisation, c'est on fiscalise, on prélève donc des impôts dans une logique de financer la redistribution sociale, mais également le fonctionnement de l'État. Hein, notamment, quand on est propriétaire d'un bien, on bénéficie bien de la garantie du droit de propriété. Donc tout ça, ça présente un des services publics à financer. Après, il y a un deuxième volet qui est la défiscalisation. Donc, les objectifs de la défiscalisation, je dirais, on peut en voir deux. On retrouve ces éléments dans l'ouvrage de Didier Ouvrard. Tout d'abord, orienter l'épargne vers certains types de placements. C'est-à-dire que l'État considère que les épargnants ne seraient pas des investisseurs parfaitement avisés et donc va chercher d'orienter l'épargne vers certains type de placement, probablement à long terme et probablement ce qui serait plus bénéfique à l'économie à long terme. Et l'autre élément, et je vais m'arrêter là sur les objectifs, corriger aussi peut-être certains mauvais effets de l'impôt sur le capital, l'effet cumulatif de l'impôt sur les intérêts par exemple, qui pose des vrais problèmes de distorsion à long terme, et aussi peut-être aussi des problèmes de progressivité qui pose un problème dès lors qu'il y a une durée de placement, forcément, la progressivité si on la calcule mal, eh bien on a un impôt qui n'est pas juste.
Bien sûr, mais alors ce qu'on peut peut-être rappeler quand même, rappelons d'abord que c'était dans le programme de François Hollande d'aller tâcher, je dis tâcher parce qu'on va voir qu'on est revenu un petit peu en arrière depuis déjà 2012, tâcher d'aligner la taxation des revenus du capital sur ceux du travail. Déjà ce principe-là, Michel Didier, vous étiez pour ou contre au départ? Cette idée qui figurait, je l'ai dit, dans son programme de campagne.
Je comprends, mais il faut peut-être pas prendre le sujet par un petit bout.
D'accord.
Nous avons fait, c'est un point important, j'y reviendrai. Mais nous
êtes en train de dire que le candidat Hollande ne prenait pas un petit bout, non?
Non. Nous avons peut-être un peu, disons les choses, parce que c'est le côté qui tout de suite intéresse l'opinion. Mais notre approche est beaucoup plus globale. Qu'est-ce que c'est la fiscalité du capital? C'est un ensemble de règles fiscales et même sociales d'ailleurs, puisque même il y a des prélèvements sociaux maintenant, qui touchent les revenus du capital, qui touchent la détention du capital et qui touche la transmission du capital. Donc ça se situe à de nombreux niveaux. Et pour chacun d'entre nous, pour être un peu concret, qu'est-ce que c'est? C'est tous les impôts fonciers, c'est l'impôt sur les sociétés, qui est un prélèvement que l'État fait entre la création de valeur et ce qui est distribué aux actionnaires, ceux qui sont propriétaires des entreprises. C'est l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les impôts sur les revenus des capitaux mobiliers. C'est les prélèvements sociaux sur les revenus du capital. C'est les impôts sur le patrimoine, et pour les ménages, on retrouve le foncier et l'ISF, qui est un aspect, mais un aspect seulement, posant de nombreux problèmes. Et puis, il y a tous les droits de donation et de succession, et enfin, les droits d'enregistrement. Chaque fois que vous vendez, vous achetez une maison, on vous prélève, l'État vous prélève X% du montant. Bon. Donc, c'est tout ça, toute cette cascade, la fiscalité du capital. Et au total, et ça fait à peu près 10% de notre PIB, donc c'est tout à fait considérable.
C'est considérable, mais on peut dire que cette réforme donc, qu'on a tâché d'appliquer, qui était censée rapporter 3 milliards d'euros, à l'arrivée, ce rendement est très, très inférieur, parce qu'il y a eu assez vite des reculs. On se souvient du mouvement des pigeons, vous nous le rappelez peut-être, 2012, les jeunes entrepreneurs sur Internet qui ont protesté assez vigoureusement, et un premier recul du gouvernement à ce moment-là.
Sur la question des pigeons, il ne faut pas effectivement que la façon dont on taxe notamment la production et donc la fabrication de richesses, ce soit préjudiciable à la création d'entreprises et à l'innovation. Ça, c'est évident. Donc le recul dans ce domaine-là était souhaitable. Après, pour revenir sur la taxation du capital, effectivement, elle est complexe. Alors, je pense qu'il y a deux interrogations qu'on doit avoir, et je pense que dans l'ouvrage, vous l'avez, c'est est-ce que cette complexité elle est en réponse à une nature complexe du capital et de ses revenus? C'est vrai qu'il y a une nature complexe, il y a des revenus risqués, des revenus pas risqués. Il y a des revenus à long terme, des revenus à court terme. Et aussi, autre question, est-ce que cette complexité, en fait, c'est pas de la complexité, c'est de la complication, puisqu'en fait, le droit fiscal, ce serait une somme un peu incohérente de législation empilée qui conduirait à un ensemble qu'on a du mal à appréhender et qui nécessiterait une simplification.
Oui. Michel Didier.
Oui, je pense qu'à nouveau, quand on donne un coup d'œil d'ensemble sur notre fiscalité du capital et son histoire, ce qu'on voit, c'est que c'est le résultat aujourd'hui d'une très longue segmentation et des couches successives qui se sont ajoutées. On est parti, bien sûr, de l'impôt sur le revenu. Il y a eu un débat, d'ailleurs, sur sa progressivité, mais c'est ça, il y a plus d'un siècle. Bon. Mais après, il y a eu l'ISF qui est apparu, donc impôt sur la détention de capital.
Solidarité, impôt de solidarité.
Progressif
sur la fortune.
Aussi. Oui, on a eu grande fortune, solidarité, on lui donne tous les noms possibles pour habiller la mariée.
progressif, très progressif d'ailleurs. Et puis ensuite, une troisième couche, qui est la montée des prélèvements sociaux. Vous vous rappelez que de zéro, il y avait zéro il y a 20 ans, à 15,5% des revenus du capital. Ce qui, au passage, je vous l'indique, puisque vous avez parlé de l'alignement, montre qu'on n'a pas du tout fait l'alignement de la fiscalité du capital sur le sel du travail. Et c'est pas ça, la réforme de Hollande. Il a surtaxé le capital par rapport au travail. Il faut dire les choses comme elles sont. Puisque nous n'avons pas 15,5% de prélèvement sur le travail. Donc c'est pas du tout, c'est un principe un peu idéologique qui a été posé, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de justification économique, mais je vais pas rentrer dans ce débat. Mais il n'a pas été mis en œuvre. Voilà. Alors, sédimentation égale augmentation. C'est ça aussi le sujet. Lorsqu'on regarde, et je crois que ça c'est très significatif, lorsqu'on regarde la totalité pour les ménages, hein, puisqu'il y a aussi les entreprises, le foncier pèse beaucoup dans les coûts de production, lorsqu'on regarde le total des impôts liés au capital, tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, et qu'on les rapporte au total des revenus du capital, c'est-à-dire ce qui va permettre de les payer d'une certaine manière, on constate que sous l'ensemble des formes, on était à 38% des revenus du capital il y a une vingtaine d'années, on est à 65% des revenus du capital. C'est absolument invraisemblable.
Oui, mais alors la question, la vraie question, c'est, vous le dites, hein, et vous n'êtes pas le seul, Jean-Pierre Levade, par exemple, ou d'autres économistes de votre, des mêmes mouvements, enfin des mêmes courants de pensée que le vôtre, nous disent cela freine l'investissement. Est-ce que réellement c'est toujours de l'argent investi dans l'économie? C'est la question principale, je crois, qu'il nous faut poser, Vincent Touzet, que vous avez examiné de votre côté.
On peut certes s'inquiéter, s'il y a une hausse des prélèvements sur les revenus du capital, est-ce que ça part un impact sur l'épargne et l'investissement? Et là, c'est là où c'est intéressant de s'intéresser à des paradoxes, c'est que le taux d'épargne en France est resté élevé. C'est-à-dire, même si on prend des graphiques qui sont dans l'ouvrage de Didier Ouvrard, on voit effectivement la courbe de hausse des prélèvements, mais ça coïncide aussi avec la période de remontée de l'épargne. Alors donc, c'est difficile.
Qui reste donc très importante et très forte.
Pour des investisseurs, ouais. Enfin pour un ménage qui cherche à transférer du revenu dans le temps, c'est clair que le rendement net d'impôt, ça influence son comportement. Mais il y a deux effets. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui est substitution, c'est... Ça m'encourage à consommer plus aujourd'hui, mais il y a un effet revenu, c'est que mon revenu de demain sera moins élevé. Et donc, ça peut m'encourager à épargner plus aussi. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si simple. Et c'est partie des nombreux paradoxes de l'impact de la fiscalité et aussi des taux d'intérêt sur l'épargne et aussi donc sur l'investissement. C'est là aussi l'épargne, la diversité de la taxation du capital peut intervenir. C'est que la façon dont on taxe l'épargne, eh bien, ça peut orienter aussi l'épargne vers des investissements qui peuvent être bons ou pas bons pour l'économie. Par exemple, on peut considérer qu'il y a certains types d'actifs qui sont relativement peu taxés. Alors, bon, on peut discuter, mais par exemple, lorsqu'on est propriétaire de son logement, on ne paye pas d'impôt sur le loyer qu'on n'a pas à payer. Alors que quelqu'un qui paierait son loyer avec des revenus du capital paierait des impôts sur ses revenus du capital. Voilà, donc on est sur des éléments où il y a une distorsion qui crée un effet de non-neutralité de l'impôt.
Oui, mais c'est ça la question principale de l'investissement, Michel Didier, est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, un mot de cette affaire d'épargne élevée, parce que c'est vrai que, d'ailleurs...
Qui reste élevée, hein, on est bien d'accord.
Elle reste élevée elle-même, on est un pays où l'épargne est relativement élevée, mais...
Un des pays où elle est le plus élevée, je crois même, non?
Oui,
en Europe,
je ne sais plus si c'est le plus élevé, mais on est élevé, et en tout cas, elle n'a pas baissé fortement dans la période récente. Mmh. Et on peut se demander pourquoi, parce que si vraiment on avait tellement de fiscalité, on pourrait se dire les gens n'épargnent plus, ils consomment, c'est pas la peine d'épargner puisque l'épargne leur coûte de l'argent. La réalité, et je me suis posé cette question et on se l'est posé, d'ailleurs il y a eu des travaux aussi de la Banque de France là-dessus, l'explication que je crois être la bonne, c'est que, et ça j'en côtoie beaucoup hein, dans d'autres activités, les épargnants sont complètement désorientés par la situation de la fiscalité. Le sujet des épargnants depuis quelques années, c'est l'impôt, c'est la fiscalité qui est écrasante. Donc ils ne savent plus quoi faire de leur argent, pourvu qu'il échappe à la fiscalité. Bon. Ou en tout cas qu'il la diminue légalement, bien entendu, il ne s'agit pas du monde de fraude. Bon. Mais de sorte que la seule manière, et la première raison c'est celle-là, l'instabilité, la crainte du lendemain, vous voyez qu'il n'y a pas de croissance, le chômage monte, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas?
Il faut épargner. Immobilise, on épargne, on ne bouge plus.
Et on l'immobilise, non pas en investissement, parce que l'investissement c'est un risque.
Bien sûr.
Mais en liquide, voilà. Et ça reste en liquidité. Et on voit les liquidités monter, qui d'ailleurs sont largement alimentés par la Banque Centrale Européenne, mais c'est un autre sujet.
Très bien, mais chercher à inciter, à stimuler l'investissement, donc, est un bon objectif.
Bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. En France en particulier, c'est stimuler l'investissement. Non pas qu'il soit très faible, mais c'est parce que comment faire pour relancer la croissance ? Bah, le déficit public. Il faut que ce soit les entreprises qui se relancent dans l'investissement. Mais elles-mêmes, elles sont tétanisées par le manque de débouchés, etc. Alors ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect qui est quand même très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons augmenté notre fiscalité du capital, comme je l'ai dit, en France. Elle est très différente de celle des pays voisins, mais très différente. Nous sommes une espèce d'îlot d'incompréhension totale de la fiscalité du capital dans le monde.
Vous faites des comparaisons avec l'Allemagne, notamment.
Mais oui, on est c'est de 1 à 4 en termes de poids sur l'effort d'épargne que chacun va faire. C'est invraisemblable. Donc, il ne faut pas s'étonner, évidemment, que le capital, il peut s'investir ailleurs. Mais le troisièmement, c'est que, par ailleurs, on est dans un environnement économique où le rendement du capital a fortement baissé. Donc on arrive à cette invraisemblable situation, où plus le rendement du capital baisse, et plus nous on taxe le capital. Et le ratio que j'ai évoqué tout à l'heure, les 65%, c'est le résultat de ces deux mouvements. Regardez où en sont les taux d'intérêt aujourd'hui. Si vous placez de l'argent dans la dette publique, franchement, ça ne vous rapporte rien. Donc vous le laissez dormir. Et ça, ce n'est pas du tout incitatif pour l'investissement.
Voilà le constat que vous faites et que vous développez, que vous justifiez dans cet ouvrage. Mais si l'on rapporte maintenant cette situation de la taxation du capital à celle des revenus des ménages et des entreprises sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, Vincent Touzet, je l'ai dit, notamment avec Henri Sterdignac et d'autres.
On peut s'interroger comment on doit taxer les revenus du travail par rapport aux revenus du capital. On peut dire que le travail, c'est le fruit aussi d'un capital humain. Et le capital humain, c'est de l'investissement, ça peut être de l'investissement à long terme. Et il y a même des économistes qui considèrent que ça peut être comparable en termes de distorsion, de taxer le capital, que de taxer le capital humain, donc le salaire, que de taxer les revenus financiers, qui est le fruit du capital, donc l'effort d'épargne. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir des débats entre, est-ce qu'il faut plus taxer le capital que le travail. Mais toujours est-il, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui de trouver un réglage optimal de la fiscalité d'un pays, c'est qu'on est en économie ouverte. Et en économie ouverte, c'est clair qu'on a plutôt tendance à taxer les facteurs les moins mobiles et à taxer plus les facteurs les moins mobiles et à taxer moins les facteurs les plus mobiles. Et on peut penser que le capital, effectivement, fait partie des facteurs les plus mobiles, ainsi que les travailleurs très qualifiés qui ont la possibilité d'aller dans des cieux plus cléments, parce que ils sont sur des métiers, qui le permettent. Donc, c'est vrai que ce débat de taxer le capital, taxer le travail, dans ce contexte-là, pencherait à taxer plus, les revenus du travail. Mais ça peut paraître un peu injuste aussi, quelque part.
Oui, parce que à partir de 2010, quand même, alors là, bien sûr, on est dans un contexte de crise, il faut le rappeler, mais les plans de rigueur, quand même, n'ont pas manqué de se succéder, pas seulement sur le gouvernement de la gauche, du gouvernement Fillon, déjà. On se rappelle peut-être le gel du barème, des surtaxes déjà de 3-4% sur les plus hauts revenus, un relèvement de la dernière tranche du barème, une hausse de la CSG aussi, et puis ensuite, évidemment, la gauche en a rajouté encore avec d'autres mesures très emblématiques pour les ménages, notamment la création de la tranche à 45%, etc. Jusqu'à ce que ces plans successifs conduisent à ce qu'on a appelé le ras-le-bol fiscal et que le gouvernement Valls a commencé à diminuer cette année l'impôt des ménages les plus modestes. C'est à peu près la situation que l'on peut résumer telle qu'elle. Avant d'en venir aux propositions que fait Michel Didier dans son ouvrage, peut-être quand même un retour encore sur le sens de cette fiscalité. Vous nous l'avez rappelé quand même, on est là dans une affaire de redistribution. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu en route la vraie vocation de la fiscalité ?
Redistribution et aussi financement du bon fonctionnement de l'État et donc du bon fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire qu'un capital a de la valeur si aussi l'économie de demain sera une économie prospère. Et ça peut dépendre aussi du bon état de solvabilité de l'État, des bons choix de l'État, des bons investissements publics. C'est-à-dire que Michel Didier disait qu'il faut avoir une vision globale et clairement, dans le domaine de la taxation du capital et la taxation de façon générale, il faut avoir une vision globale de l'interaction entre le financement de l'État, pas seulement de la redistribution, mais finalement du bon fonctionnement d'État.
Dépenses publiques, dépenses sociales aussi.
L'investissement dans l'éducation, c'est investir dans le capital de demain. Et donc, il faut intégrer tous ces éléments.
Oui, le danger de trop dénoncer l'imposition et peut-être de perdre en route cet objectif-là. Et là, on est dans un système de valeurs quand même. Michel Didier.
Oui, on a voulu absolument éviter d'entrer dans des débats philosophiques, vaseux, sur est-ce qu'il faut imposer plus le capital ou le travail.
C'est pas vaseux le débat philosophique sur ces questions-là.
C'est vaseux. C'est vaseux.
Pourquoi ?
Parce que le travail, c'est aussi le résultat de l'investissement. Si on n'investit pas, il n'y aura pas de travail. Donc, il faut quand même voir qu'est-ce qui est globalement, c'est ça la vraie question, qu'est-ce qui est globalement le plus efficace pour la croissance et pour l'emploi. Et nous disons clairement qu'aujourd'hui, notre fiscalité du capital fait partie de ces vieux, de ces vieilles idées qui nous ont conduits au fil du temps, et là, je dis bien de la sédimentation du temps, donc je ne cherche pas à désigner qui que ce soit, à ce que certains ont appelé dans le passé la préférence pour le chômage. Je dis que notre fiscalité du capital aujourd'hui, c'est un des éléments de notre préférence pour le chômage. Pourquoi ? Parce qu'on court derrière l'égalité, la redistribution, etc. Mais on ne la fait pas, en réalité. On ne la fait pas. Les réformes récentes n'ont pas fait gagner quoi que ce soit en correction des anomalies qui continuent d'exister et qui sont dues à la complexité de notre fiscalité du capital, à savoir par exemple que des gros patrimoines ne payent pas d'impôts, ne payent pas d'ISF, parce qu'il y a la combinatoire entre l'assurance vie qui permet de ne pas payer, le plafonnement de l'ISF qui a été créé par le, enfin, voulu par le Conseil constitutionnel. Et quand vous combinez tout ça, on nous dit c'est plus juste, c'est pas vrai. Les gros patrimoines ne payent pas. Bon. Par contre, des patrimoines beaucoup plus petits, si vous comparez des deux personnes, l'un qui travaille et l'autre qui ne travaille pas et qui s'arrange avec l'assurance-vie, etc., qui a par ailleurs un très bon système, l'assurance-vie, ce n'est pas ça qui est en cause, c'est la combinaison de tout ça, ben, il faut payer pour le patrimoine plus petit une partie de son impôt sur le patrimoine avec ses revenus du travail. Simplement, c'est limité à 75%, il reste 25% pour vivre. Sur son revenu du travail. Vous vous rendez compte de la justice sociale ?
Va s'enthouser là-dessus quand même.
Il y a plusieurs éléments qui contribuent aussi à...
Mais vous êtes d'accord à
les éléments qui sont décrits tout à fait de Michel Didier, c'est que l'impôt sur le patrimoine a plutôt augmenté. Mais effectivement, au-delà d'un certain niveau de patrimoine, voilà, il y a des grandes possibilités d'échapper à l'impôt. Donc, ce qui veut dire que c'est pas les top one ou les 10% du patrimoine qui vont être forcément les plus soumis à cette progressivité. C'est là où les niches fiscales posent aussi un problème, c'est que on a alourdi l'impôt sur le revenu du patrimoine et sur le capital. Ce qui accroît, je dirais, l'écart entre les niches fiscales qui ne sont pas imposées et les autres qui sont imposées. C'est-à-dire que ça crée un sentiment, je dirais, plus fort d'inégalité entre ceux qui vont être plutôt soumis à l'impôt puis ceux qui arrivent à y échapper, du fait qu'il y a un alourdissement. Donc, c'est-à-dire que l'alourdissement, il est finalement assez mal partagé.
Et est-ce qu'on n'arrive pas finalement, tout prélèvement confondu, là je reviens à Thomas Piketty, le titre de votre ouvrage, il fait d'ailleurs clairement référence, Capital au XXIe siècle, est-ce qu'on n'arrive pas quand même, tout prélèvement confondu, avec ces systèmes d'optimisation fiscale et de niches fiscales très nombreuses, on le rappelle, et que, évidemment, les plus informés, entre guillemets, ont plus de facilité à trouver que les autres, à des taux d'imposition qui finalement se révéleraient plus élevés pour des ménages plus modestes et moins, et s'abaisseraient pour les plus riches qui connaissent mieux les bonnes voies d'écart.
On ne peut pas faire cette généralité.
Michel Didier.
On a dans un système où on court derrière une espèce de redistribution qu'on n'atteint pas, en augmentant sans arrêt les taux. Comme les taux sont prohibitifs, on est obligé de multiplier les niches fiscales. Et la combinaison des deux fait qu'on n'atteint aucun objectif et on pèse sur la croissance. Donc nous avons des propositions pour en sortir.
Alors venons-en à cette proposition, la principale, qui est quand même assez forte.
Oui, enfin, il faut les prendre. Ouais. Il y a 4 points et 3 principaux. Nous proposons que de remplacer tout ce système taux élevé, trop élevé, avec un rendement du capital qui faiblit, ça ne va pas, niche fiscale, suppression, par un prélèvement unique, au lieu de l'IR, l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, plus l'ISF, tout ça est intégré dans un prélèvement unique, sur les revenus du capital, pour tout le monde paiera, quel que soit son niveau de revenu, le taux étant de 30%. Je rappelle que c'est le taux le plus élevé, même à 30%, des pays européens qui ont à peu près tous ce système.
Donc vous proposez 30%.
Pour répondre à votre question, parce que vous dites, il y a raison, aujourd'hui, par exemple, les livrets de caisse d'épargne sont exonérés, on ne va pas les taxer demain. Bon. Donc pour cela, nous proposons qu'il y ait une franchise d'impôt sur les 500 premiers revenus du capital, par exemple, ce qui doublerait pratiquement l'avantage fiscal du livret de caisse d'épargne. Donc les petites épargnes, ce qu'on appellera petite épargne, seraient totalement exonérées, même bien mieux qu'aujourd'hui. Mais entre la suppression des niches fiscales et un taux d'imposition à 30%, on a le même niveau de recettes fiscales, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des recettes, qu'aujourd'hui, c'est un système d'une simplicité très grande, c'est le système allemand, c'est le système de l'Europe du Nord, que la France se mette au pas de l'Europe.
C'est donc votre revendication, proposition première, Vincent Touzet, sur cette proposition des 30%
fiscale,
à laquelle on réfléchit aussi du côté de l'OCDE.
Oui, non, la simplification fiscale
on est pour,
par ce
évidemment.
Type de procédé, c'est, parfois ça encourage à renoncer à une forme de progressivité. Et après l'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait des impôts sur les transmissions et sur les héritages qui posent d'autres soucis en termes d'inégalité sociale, parce que... quelque part, d'ailleurs, même beaucoup d'économistes libéraux parfois étaient... On ne fait pas taxer les revenus capital, mais il faut lourdement taxer les héritages qui, finalement, renvoient aucun mérite personnel, si ce n'est qu'une hérité de ses parents.
Et oui. Nous avons des propositions, là aussi. C'est de dissocier l'imposition des successions et l'imposition des donations. On vit de plus en plus longtemps, on hérite de plus en plus tard, et c'est fâcheux parce que les jeunes ont besoin d'hériter, d'avoir du capital plus jeune pour s'installer, créer leur entreprise, et il faut inciter les parents à donner.
Eh bien, je vous propose de revenir avec peut-être d'autres interlocuteurs sur toutes ces propositions et sur cette très très complexe politique fiscale, plus moins juste. C'est vraiment un débat à poursuivre. Je vous propose d'enchaîner avec Marie Bellan à présent, notre chronique sociale. Et là, nous revenons sur une autre actualité très brûlante cette semaine,
oui.
La loi de Madame El Khomri.
Voilà, bonjour Dominique.
Projet de loi.
Alors, le chiffre que j'ai retenu cette semaine, c'est celui de 2%. Et effectivement, je veux le mettre en lien avec le projet de loi qui a été dévoilé cette semaine, d'ailleurs dans les colonnes des Échos, et qui réservait quelques surprises, notamment un assouplissement des conditions du licenciement économique. Alors c'est un choix un petit peu curieux si l'on regarde de près la part des licenciements économiques qui sont contestés devant les tribunaux. Selon une étude de la Chancellerie qui date d'août 2015, donc toute récente, parmi les affaires portées devant les tribunaux prud'homo, 8 salariés sur 10 contestent le motif de la rupture de leur contrat. Mais sur ce total, seuls 2% des cas concernent le motif économique, alors que 76% relèvent du motif personnel. Cela signifie, en résumé, que le gouvernement prend le risque donc de braquer une partie des syndicats, de bousculer sa majorité, voire de recourir au 49-3 pour faire voter son texte et pour une mesure qui concerne donc moins de 2% des litiges au prud'homme. Alors en somme, si l'incertitude qui plane sur la rupture du contrat de travail est bien réelle, ça on ne peut pas le contester, ce n'est pas le licenciement économique qui en est la principale cause, et c'est pourtant ce motif que le gouvernement a choisi de clarifier. Alors pourquoi ? Pour des raisons qui relèvent plus en réalité de l'affichage politique, on va dire, que de l'efficacité économique. Ce volet de la réforme est manifestement un signal envoyé aux grands groupes internationaux, aux investisseurs étrangers, pour les rassurer. On sait en effet que ces derniers sont souvent tétanisés devant la complexité du droit social français, surtout devant son caractère assez flou. Et c'est vrai que là, la réforme vient préciser qu'est-ce qu'une difficulté économique et qu'est-ce qu'il faut entendre par un motif économique. Donc, en ce sens-là, ça peut les rassurer. Mais, bon, finalement, les licenciements économiques sont peu contestés, je l'ai dit, et les grands groupes passent par des plans de sauvegarde de l'emploi, les fameux PSE, qui ont été largement assouplis déjà et sécurisés dans une loi de 2013. Alors, en fait, la véritable révolution que propose la réforme du gouvernement, elle concerne le périmètre d'appréciation par le juge des difficultés économiques de l'entreprise. Je m'explique. Alors, jusqu'à présent, un groupe international dont la filiale française était en difficulté financière, même grave, ne pouvait procéder à des licenciements économiques en France si les autres filiales du groupe à l'étranger étaient au contraire en bonne santé financière. Tel qu'il est rédigé aujourd'hui, le projet de loi lève cette impossibilité. Et voilà, c'est ce qui est ici, pour le coup, un des très gros changements de la réforme qui est proposé par le gouvernement, mais on le voit surtout à destination des groupes internationaux.
Merci Marie Bellan, chronique sociale donc sur cette loi dont on n'a pas fini de parler. Nous y reviendrons, nous, bien évidemment, dans les tout prochains sujets. Merci à Michel Didier, dont je rappelle donc le titre « L'impôt sur le capital au XXIe siècle, une coûteuse singularité française ». C'est paru aux éditions Economica avec Jean-François Ouvrard. Vincent Touzet aussi, on se reportera aux travaux de l'OFCE, notamment ceux qu'il a réalisés avec Henri Sterdignac sur la fiscalité des ménages et des entreprises. Merci à tous les deux et à notre petite équipe d'aujourd'hui. À samedi prochain.